L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous vivons aujourd'hui notre heure H au début de l'automne 1957. James Dean est mort depuis 2 ans, jour pour jour. Dans un accident de la route terrible, mythique, entré dans la légende. Sa célèbre voiture, sa Porsche 550 Spider, surnommée Little Bastard, est depuis la propriété d'un homme du nom de George Barris. Mais depuis quelques mois, l'épave voyage sur les routes californiennes dans le cadre d'une exposition itinérante visant à sensibiliser la population sur la nécessité d'une sécurité routière encore trop peu respectée au pays de l'oncle Sam. Nous sommes le 30 septembre 1957. Il est 14h30. Dans quelques instants, les responsables de la California Highway Patrol vont démarrer une nouvelle visite de l'entrepôt dans lequel est stockée la Spider de l'acteur. Et vivre l'inénarrable, la malédiction de Little Bastard s'apprête à frapper une nouvelle fois. 14h30, l'heure H de mon histoire. John Wilkins est un flic de 55 ans dont la gouaille et le charisme ont fait leur preuve. Dans son uniforme couleur sable, bottine aux pieds, il râle. Voilà que ce tonitruant moustachu a encore taché sa cravate bleue avec de la moutarde. Foutu hot dog, foutu gourmandise. Pam, sa femme, va encore lui faire la leçon. Il l'entend déjà d'ici. Alors en léchant son pouce gauche et en frottant la tache, il essaye tant bien que mal d'effacer cette satanée trace qui s'apprête à être la cause de reproches ce soir. Son collègue, Tommy, lui, il rigole. Propre sur lui. Comme prêt à partir à l'inspection, cheveux gominés et rasés de près, son style est pour le moins différent. Mais John l'aime bien, son collègue propre, même si son parfum le prend à la gorge. Ah, il faut dire qu'il n'est pas marié, le jeune homme. On verra. On verra quand il aura la bague au doigt. Tout comme John, il prendra du bide à cause des pancakes du dimanche, se fera pousser une moustache digne de celle de ses prédécesseurs et il perdra ses cheveux. Le cycle de la vie pour les flics de Californie, en somme, pense notre bedonnant héros du jour. Du haut de son mètre 94, il toise l'assistance. Sa grosse voix particulièrement rauque réussit toujours à passionner les visiteurs pendus à ses lèvres et à dissuader les jeunes garnements un peu moins attentifs. Voilà pourquoi il a été choisi par la patrole pour conduire ses visites de l'entrepôt. C'est un boulot qu'il déteste, soyons francs. Oh, les gosses, ça a toujours eu tendance à l'emmerder. Mais bon, il faut bien payer les factures et emmener Pam au cinéma de temps en temps. Il n'avait jamais pu en avoir des enfants. Non pas qu'ils ne l'ont pas voulu, mais disons que Mère Nature avait condamné sa femme à être stérile. Lui, il n'avait pas mal vécu. Pour Pam, c'était une autre histoire. Bon, aujourd'hui, il est trop tard, mais le creux dans le cœur de sa femme, John, le voyait bien. Alors il tentait de le combler comme il pouvait. Au fond, c'était lui le gamin du petit pavillon à la sortie de San Francisco. Django, leur labrador aussi, en quelque sorte. Dimanche, il l'emmènerait à la chasse aux canards. Oh, Pam n'aimait pas ça, mais elle finirait par suivre, comme toujours. Mais voilà que John s'égare. Déjà, le groupe de jeunes se pointe à l'entrée de l'entrepôt. Ils sont 18. Tommy fait le rabatteur à l'arrière. Il joue avec son talkie, reluque les gamines âgées de 16 à 19 ans. John, lui, met les pieds dans le plat dès le départ. Pas de bavardage, pas de moquerie, pas de sourire nié. Le sujet est sérieux. Et les pièces disponibles dans cette exposition de sensibilisation sont plutôt belles. Moins que les précédentes, certes. Mais ça, il n'y pouvait rien. Il y a quelques semaines, tout l'entrepôt a cramé. Tout a brûlé dans un brasier indescriptible. Enfin, tout. Pas tout à fait. Un seul objet s'est sorti d'affaire. Little Bastard. La voiture, enfin, ce qu'il en reste, est connue dans tout le comté. C'est celle dans laquelle s'est tuée l'une des stars montantes parmi les plus célèbres d'Hollywood, Mr. James Dean, monsieur dame. Et c'était lui, John Wilkins, qui avait la charge de la présenter. Pas mal, hein? La voilà d'ailleurs, la Spider, qui trône au-dessus de tout le monde, suspendue à des câbles en métal. John a toujours trouvé cette voiture particulière, très étrange. En fait, malsaine, pour être honnête. Oh, bien entendu, le gamin s'était tué dedans et ça n'aidait pas à en faire quelque chose de positif, mais même si on faisait abstraction du drame, après tout, toute l'exposition est consacrée à la sécurité routière, elle est différente des autres objets chocs. Déjà parce qu'on doit risquer le torticolis à chaque fois qu'on pose les yeux dessus. Ensuite, parce que les histoires qu'on raconte sur ce bolide sont totalement inhabituelles. Pire, terrifiantes. Au premier rang aujourd'hui, un adolescent de 15 ans est plus turbulent que les autres. John l'a donc toujours à l'œil. La moustache hérissée de tension, il déroule son discours habituel sans quitter des yeux le blondinet aux cheveux bouclés qui fait le malin. Et voilà notre formateur qui raconte l'histoire du petit prodige du cinéma américain. Il parle surtout de sa passion pour l'automobile. Ses films pour Midinette n'ont rien à voir avec son allocution sur les dangers de la route. Comme d'habitude, John force le trait. Parle d'un petit branleur fan de vitesse pure qui s'est crashé à 140 km par heure dans une boîte de conserve. Il met en garde les gosses sur les dégâts que peuvent causer les accidents frontaux qui ont lieu à une vitesse trop importante pour pouvoir bénéficier d'un bon temps de réaction. Généralement, le combo de ces mots et de l'impact visuel de la carcasse laisse les petits bouche bée. C'est là que John enfonce le clou. Faire plus attention aux autres qu'à soi-même. Si l'acteur était mort ce jour-là, c'était à cause de la vitesse, certes, mais aussi et surtout parce que l'étudiant en face de lui avait refusé une priorité à droite. Cocktail Molotov et direction, bam, le cimetière. Les arguments de John, comme d'habitude, font mouche. Sauf chez le gamin turbulent du premier rang qui, dissipé, a quitté le groupe suivi de près par Tommy, qui lui colle au basque. L'adolescent passe entre les vitrines, n'écoute pas les accompagnateurs qui lui demandent de revenir. Le blondinet passe entre les stands aux phrases choc, déambule entre les pneus et les moteurs. Subitement, il bifurque pour passer en dessous de la Spider de James Dean qui semble regarder interloquer son petit manège depuis plusieurs minutes. Little Bastard n'a pas la réputation d'être particulièrement bienveillant, ni patient d'ailleurs. C'est à cet instant, alors que, comme par magie, lorsque le gamin passe sous la voiture en mimant James Dean au volant de son bolide, le pot d'échappement, sans aucune explication rationnelle, se détache de la carcasse. John hurle après le gamin à gorge déployée. Il a eu le temps de comprendre la catastrophe qui se préparait. Trop tard. Tombant de plusieurs mètres à pleine vitesse, la lourde pièce de l'automobile vient écraser littéralement le turbulent adolescent. Fini les boucles blondes. Little Bastard vient de frapper une nouvelle fois. Tommy est éclaboussé du sang du gosse et John, lui, reste pantois. Pâle comme la mort, attrapant son toki, le policier lance le code correspondant à une urgence vitale. Plus jamais après cet accident, il n'acceptera de se trouver au même endroit que la carcasse de ce foutu bolide. Et lorsqu'il raconte, livide, son histoire à Pam en rentrant à la maison ce soir-là, la tache sur la cravate n'a même pas eu voix au chapitre. Non, une voiture tueuse, c'était quand même un peu plus sensationnel qu'une énième tache de moutarde. Notre histoire commence 2 ans plus tôt. Nous sommes au printemps 1955, en plein cœur des studios de tournage de la Warner. Les équipes en place ce jour-là tournent La Fureur de Vivre. C'est le 2e film de James Dean. Le gamin de 24 ans est en train de devenir une superstar. le film géant arrivera juste derrière. Chaque fois, Dean a le premier rôle. Aujourd'hui est une journée particulière pour lui. James va jouer une scène de course-poursuite. L'acteur adore ça, les courses de bagnole. Il fait une chaleur du diable en ce jour de printemps. Et attendre toute la journée a été pour lui insoutenable. La scène de course doit être enregistrée cette nuit et il n'y a pas la possibilité de tourner 50 prises. Il a donc un peu la pression. Il s'agirait de ne pas se louper. Heureusement, la première prise sera la bonne pour James et pour le réalisateur. Et quelle scène ! Elle fera entrer Dean dans la légende. Laissez-moi vous la décrire. En ouverture, Natalie Wood, resplendissante dans une tenue immaculée, va voir le rival de James qui lui réclame une poignée de terre. En arrière-plan, les moteurs ronronnent. Une voiture noire pour Dean, une couleur sable pour son rival. Course tout droit vers la falaise et c'est la belle jeune femme qui se charge de donner le signal. Cheveux bouclés brochés, un large sourire aux lèvres, elle tranche avec le personnage joué par la jeune rockstar qui, froid et au charisme distant, n'esquisse pas le moindre geste de bonne humeur. Le jeune personnage est en quête d'affirmation de sa virilité dans le film. Et James Dean l'interprète parfaitement bien ce rôle. Veste en cuir rouge sur le dos, t-shirt blanc, cigarette au bec et mèche blonde ramenée vers l'arrière de son crâne, le beau gosse est taillé pour faire tourner des têtes. Et elles sont déjà nombreuses à tourner les têtes. Son adversaire le provoque, le traite de dégonflé. James ne daigne même pas lui répondre verbalement. Un geste esquissé de la main en jetant son mégot, ça lui suffit. La jeune femme, qui est avec le loubard concurrent à ce moment de l'intrigue, l'embrasse et se décale vers la voiture de Dean à son appel. En provocation retour, il réclame à la jeune femme un peu de terre. La course peut commencer. Au signal de la jeune héroïne, les deux bolides s'élancent entre deux rangées de voitures de sport. Le premier qui sautera de sa voiture est un dégonflé. James saute le premier après un long jeu de regard avec l'autre pilote. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son concurrent a coincé la manche de son perfecto dans la portière et qu'il ne lui est donc pas possible de sauter de la voiture. Il plonge dans les abysses avec les deux bolides et perd la vie. 3 minutes 30 de pur bonheur pour une scène totalement mythique du renouveau du cinéma dans les années 1950. La légende de James Dean s'est née. Sa passion pour l'automobile aussi. La fin du printemps se poursuit avec le tournage du troisième et dernier film de l'acteur. Une performance aboutie au maximum qui le propulse au firmament. Mais ni La Fureur de Vivre, ni Géant ne sont encore sortis dans les salles. Si James Dean crève l'écran, c'est pour le moment uniquement pour le bonheur des professionnels du cinéma. Le premier film cité doit sortir en octobre, l'autre au début de l'année 1966. James Dean n'en verra aucun des deux. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, le jeune homme surfe sur une gloire bien méritée, tant ce qu'il dégage touche au plus profond d'eux-mêmes les gens qui le côtoient. Je vous l'ai dit, depuis la fin de son adolescence, James Dean est un passionné de voitures de course. Il n'a qu'un rêve. Prouver qu'il est capable de courir sur circuit et d'obtenir des résultats probants. C'est un écorché vif, un paria de l'existence. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 9 ans et son père l'a abandonné à sa belle-sœur qui s'est chargée de son éducation. Son enfance, c'est le drame de sa vie. Alors quand il en sort de cette enfance terrible, brûler la vie par les deux bouts ne lui semble être ni une bêtise ni de l'imprudence. tout au contraire. Courir pour se guérir, risquer sa vie pour tenter de respirer normalement, comme les autres. Ses premiers contacts avec les engins à moteur ont déjà lieu durant cette période où sa mère est au ciel et son père aux abonnés absents. Dans les rues du patelin dans lequel il vit, son surnom c'est Jimmy Plein Gaz. Déjà tout un programme. C'est un Whizzer, un vélomoteur américain qui fait son bonheur avant que son oncle ne lui paie un tchèque, un rutilant monstre de fabrication tchécoslovaque. Mais le vieil oncle regrette très vite son achat et commence à s'inquiéter. Déjà, le petit James roule d'une manière si insouciante qu'il ne voit pas le danger qui le guette. Et puis, un copain du quartier achète une Plymouth 1934. Un véritable Titanic sur goudron. Il la prête de main en main et James Dean prend goût à la conduite de voiture. Il fait ses premières armes de pilote sur un petit parcours de ce bled de l'Indiana. Il écrase ses potes et décide, un peu à la surprise générale, d'aller s'installer en Californie en 1949. Avec en ligne de mire le projet de devenir acteur de cinéma. Après quelques années passées à accumuler les petites apparitions, James Dean joue son premier grand rôle et ce contrat signé avec la Warner va lui permettre d'assouvir sa passion de la vitesse. Il n'oublie pas, être pilote, c'est le deuxième objectif de sa carrière. Alors, il commence par acheter des motos, une Triumph d'abord, puis une T500. Il va finir par l'échanger contre sa première voiture personnelle, une MG Rouge 100 de 1953. Une beauté qui le familiarise avec les voitures européennes. C'est le gros souci des États-Unis d'après-guerre. Ils ne savent pas produire des voitures de sport comme on peut les concevoir en Europe. Mais sa bagnole, aussi rouge que les drapeaux des toréadors, finit par l'ennuyer. Depuis quelque temps, James mûrit le projet d'acheter enfin une voiture qui lui permettra vraiment de courir. Et c'est à ce moment-là que l'un de ses amis lui conseille d'aller chez Porsche. Oh, James est séduit. Il engloutit tout ce qu'il reste de son cachet dans une 356 Speedster, un monstre de 70 chevaux qui peut monter à 160 km par heure. Ah, c'est décidé. Il se lance dans la course automobile. Mais James est pressé. Il veut courir sa première course le 26 mars 1955. Il a donc moins de 4 semaines pour se préparer convenablement et prendre le bon coup de volant nécessaire. Bon, disons-le, c'est une folie. Il ne peut pas louper cette course à Palm Springs, d'autant qu'elle réunit les meilleurs pilotes de Californie. Non, c'est impossible. Alors, avec un ami, Dean part en repérage. Ils finissent par trouver le terrain d'entraînement idéal sur la vraie route, au milieu des tacos et des vélos. Mulholland Drive, qui relie Hollywood à Laurel Canyon, est une tannée en termes de nombre de virages, de toutes sortes et de tous degrés. Conduire là, à toute beurzingue, est un défi des plus difficiles. Mais rien, rien n'est assez fou pour James. En quelques jours seulement, tenez-vous bien, il va parcourir près de 1600 km cumulés sur cette portion, qu'il va emprunter plusieurs dizaines de fois. Tellement de fois que les flics du comté se posteront à certains endroits pour le regarder faire. Je vous laisse imaginer l'ampleur de l'inconscience. Dans tous les cas, le beau gosse à la mèche est sur la ligne de départ de cette fameuse course à Palm Springs et il va exploser tous les records pour un débutant, terminant à une exceptionnelle 8e place au milieu d'un panel de coureurs pour la plupart professionnels. Certains, déjà, évoquent la tête brûlée absolue du jeune acteur. L'accueil qui lui est réservé est des plus frais. Personne ne pense qu'il a ses chances et durant les qualifications, le premier jour, fusent les remarques désobligeantes, mauviettes, originales, pilotes de bac à sable et j'en passe. Un déferlement d'ondes négatives. Mais James ne se laisse pas perturber. Il enquille les vitesses pousse toujours plus loin ses rapports et il déboîte la concurrence, prenant jusqu'à 600 mètres d'avance sur ses concurrents. Parti de la troisième ligne, il remporte haut la main la séance de qualification. Le lendemain, c'est un poil plus décevant puisqu'il termine donc huitième. Mais la bagarre est intense et mieux encore. Il repart en ayant gagné le respect des plus sceptiques. Mais déjà, il a la certitude qu'il va devoir changer d'engin pour progresser. La course suivante, à Santa Barbara, est encore l'occasion pour James Dean de s'illustrer. Partant du fond de grille en qualification, il se hisse à la quatrième place, portant son total de dépassement à plus de 30 en seulement deux week-ends de course. Une folie. Mais à force de trop pousser sa petite Porsche, l'acteur est victime d'une casse moteur. Abandon, fin de l'histoire. D'autant plus que le tournage de son troisième film démarre et que les assureurs ont été clairs. Pas de pilotage durant tout le processus de tournage. Trop dangereux. James Dean se range derrière l'injonction, mais il décide de changer de mécanicien et de commander une nouvelle voiture pour son grand retour. Oh, pas n'importe laquelle, vous vous en doutez. Une Lotus MK. Un véritable bijou de technologie pour l'époque. L'été s'écoule, mais la voiture n'arrive pas. James Dean s'impatiente. La fin du tournage est dans quelques semaines seulement. Il en parle à son mécanicien, qui lui annonce avoir reçu 5 Porsche Spyder 550. Au premier coup d'œil, c'est le coup de foudre. James Dean achète donc son Little Bastard. Cette voiture, déjà, dégage une telle aura négative que sa petite amie de l'époque, Ursula Andress, la première James Bond girl, refuse de monter dans l'auto flambant neuve. Nous sommes alors le 21 septembre 1955 et l'histoire est en chemin, tout comme la mort.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
L'heure H d'aujourd'hui nous plonge au cœur de l'univers de l'un des acteurs les plus célèbres produits par Hollywood, James Dean. Plus particulièrement à ce jeune homme qui rêve de devenir pilote de course autant qu'acteur. L'achat de deux premiers bolides l'amène à ses premières compétitions. Le rêve du gamin de l'Indiana semble se réaliser, et avec panache. Ses résultats sont très probants et sans la casse moteur de sa première Porsche et les réticences de ses producteurs, il aurait continué sur sa lancée. Mais pas de panique. L'acteur prépare déjà son retour sur la piste. Enfin du moins, c'est ce qu'il croit. Nous sommes le 30 septembre 1955. Il est 13h15. James Dean saute dans sa petite boîte de conserve, véritable bombe de vitesse. Des lunettes de soleil vissées sur le nez, la mèche ramenée vers l'arrière, Little Richard chante son tout nouveau tube, Tutti Frutti, à la radio. Dean attend que son mécano vienne s'asseoir à côté de lui et ils partent tous les deux. Oh, il est ravi de son nouveau mécanicien, ancien pilote de la Luftwaffe. C'est un véritable connaisseur. Les notes effrénées de piano du chanteur de Rhythm and Blues le poussent à tapoter le rythme sur son volant. Et dès les premiers kilomètres, les deux hommes prennent de la vitesse. Plus que la limite ne l'autorise. Mais ça, Dean, il s'en fiche royalement. La course de ce week-end, sur deux jours, se déroule à Salinas, un peu plus de 5 heures de route, et ils y seront. La matinée a été consacrée au réglage à apporter aux petits monstres mécaniques qui avalent les kilomètres sans effort. Ils ont aussi pris un petit déjeuner avec un de leurs amis. Était aussi présent un photographe qui doit suivre Dean durant tout son périple pour un reportage dans un magazine bien connu de la côte ouest. Ils ont donc avalé les donuts de Martha au Hollywood Ranch Market. La vieille femme écoutait du Muddy Waters et c'est sur du Manish Boy que l'acteur a même signé quelques autographes. Ce type est l'incarnation même du sex appeal, mesdames, messieurs. Roger, le mari de Martha, petit, trapu et pas bien chevelu, était un peu jaloux de ce gamin en blouson en cuir et en bottines. Mais bon, il fallait bien l'avouer, il avait un petit truc en plus. Les voilà partis. En tous les cas, il a des aigreurs d'estomac sur la route, le James Dean. Trop de sucre, trop vite. mais son Little Bastard répond bien. Il a l'impression de ne faire qu'un avec la machine, de sentir les couples et chaque bruit du moteur, comme si tout cela traversait son propre corps et ses propres cellules. Il est né pour ça, piloter, conduire. La route jusqu'au circuit est une succession de lignes droites. Il ne risque rien. Logiquement, il aurait dû tracter l'engin et non le conduire. C'est son mécanicien qui l'a convaincu de prendre le volant, juste histoire de tester les réglages. Sans voir le temps passer, la jauge d'essence diminuant dangereusement, le petit groupe s'arrête pour que Dean fasse le plein de carburant. Il est 14h. Et sans réellement réaliser pourquoi, son mécano repense à la phrase prononcée par un célèbre acteur américain la semaine dernière. C'était au sujet de la voiture qu'il a sous les yeux. Alec Guinness, le premier des Obi-Wan Kenobi de la saga Star Wars, le jeudi précédent a prophétisé. Ne la conduisez surtout pas, ou vous serez mort la semaine prochaine. Ah, Jimmy, 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 toujours écouter un maître Jedi, tu devrais le savoir. Voilà qu'après cette première pause carburant, le convoi composé de deux véhicules repart. Le numéro 130 est inscrit sur les côtés de la Porsche ainsi que sur le capot avant. L'inscription « Little Bastard », elle, est sur le capot arrière, comme une provocation pour ceux que le conducteur toise dans ses rétros. James Dean prend de mieux en mieux en main le bolide qui le lui rend bien. Ils sont faits pour s'entendre. Tous deux sont d'élégants mélanges de modernité, saupoudrés d'un côté sauvage, presque romanesque. Et alors qu'ils suivent la Grapevine en direction de Bakersfield, l'acteur déroule plus encore sa vitesse. Et à 15h30, ce qui devait arriver arrive. Une patrouille routière arrête les deux voitures qui se suivent. Les conducteurs prennent une amende salée pour une vitesse frôlant les 110 km par heure dans une zone qui en tolère 80. Oh, pas grand-chose, vous allez me dire. Oui, mais rappelez-vous, nous sommes en 1955. Cette vitesse-là n'a rien d'anodin à cette époque. James Dean range la contravention dans la poche intérieure de son perfecto, salue de la main les agents et repart pied au plancher. Il faut pousser la machine dans ses limites, voir ce qu'elle est capable de tolérer et ce qu'elle a dans le ventre. Il est 17h15. Dean est ravi. Tout va pour le mieux. Lui et son mécano se dandinent sur le dernier titre de Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Et les deux hommes chantent de bon cœur. Ils ne sont plus qu'à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Dean a fortement accéléré et la Break Ford pilotée par ses amis derrière n'a pas tenu le rythme. Une demi-heure plus tard, à 17h45, la jonction entre la route 466 et la 41 est en vue. L'acteur roule à pleine balle, certainement 140 km par heure. C'est alors que s'engage sur la route, tout en douceur, une Ford 1950, conduite par un étudiant de 23 ans. Elle arrive sur la gauche de la Porsche. Vétéran de l'US Navy, Donald Turnerspeed ne voit pas le bolide allemand arriver et lui refuse la priorité. C'est le crash. Inévitable. Dans un hurlement strident, James Dean tente une manœuvre de circuit, plaçant tout pneu crissant la voiture de biais. Mais il est déjà trop tard. Les deux véhicules se percutent presque de plein fouet. Le choc est terrible. Il coupe le souffle des passants qui en sont témoins. La Ford, beaucoup plus lourde, a éjecté la Porsche, partie en tonneau rejoindre un ravin non loin de là. L'espoir est faible pour les chances de survie des deux passagers. Dean est extirpé du cockpit, son pied gauche écrasé entre la pédale d'embrayage et le frein. Son cou est fracturé. Il a de multiples plaies et une probable hémorragie interne. Une infirmière, qui se trouve là par hasard, perçoit encore à cette heure un léger pouls chez l'acteur. L'ambulance transporte les trois victimes de l'accident à l'hôpital et à 18h20, James Dean est déclaré mort. Aussi miraculeux que cela puisse paraître, son mécanicien s'en tira avec une mâchoire et une hanche cassées. Le jeune conducteur de la Ford, lui, n'aura que quelques bleus et un saignement de nez. Du délire quand on repense à la violence de l'impact. D'ailleurs, la Porsche du jeune pilote qui fume encore sur le tarmac est totalement désintégrée, ou presque. Elle semble ricaner alors qu'elle agonise. Little Bastard vient de faire sa première victime. Et la série, vous allez le voir, va continuer. Vous voulez connaître le plus ironique de l'histoire ? Deux semaines avant son accident, James Dean avait tourné un clip vidéo pour la sécurité routière californienne. Décidément, la vie et ses clins d'œil.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H s'intéresse au destin extraordinaire d'un petit prodige du cinéma et de la course automobile, James Dean. L'acteur vient de se tuer au volant de sa toute nouvelle Porsche Spyder. Pourtant, dès le départ, de nombreuses voix se sont élevées dans son entourage pour le dissuader de piloter cet engin qu'il a surnommé Little Bastard. Nombreux sont ceux à avoir eu de mauvais pressentiments. Et vous allez voir, ils ont certainement eu raison. Tant cette voiture, qu'elle soit entière ou réduite à l'état de carcasse, est frappée du sceau du malheur. Et l'accident ne marque pas la fin de vie de l'épave. Nous sommes 10 jours avant le tragique accident de James Dean. La jeune star, fumant cigarette sur cigarette, vient de recevoir sa nouvelle voiture. Il en est fou. Alors qu'il est en pleine discussion avec son nouveau mécanicien, apparaît Maïla Nurmi. L'actrice, interprète de Vampira dans de nombreux films et téléfilms d'horreur, est une personne des plus particulières. C'est ce qui attire James Dean, qui vient d'avoir avec elle une liaison de courte durée. Mais l'acteur l'a humilié par voie de presse, arguant qu'il y avait peu de chances qu'il soit attiré par elle et sa bizarrerie. Furax, la grande brune vient réclamer des explications. Obnubilé par la carrosserie parfaite de son bolide allemand, l'acteur l'envoie sur les roses. C'est à peine s'il pose les yeux sur elle. Gêné, le mécanicien raccompagne Nurmi vers la sortie alors qu'elle profère des menaces. Que Dean n'aurait peut-être pas dû prendre à la légère. Cette actrice est spéciale. Dans son rapport au monde et dans son rapport à la spiritualité notamment. Enfin, disons simplement qu'elle a la réputation de se livrer à des rites sataniques. De là à imaginer qu'elle aurait pu jeter un sort sur Dean, pourtant, c'est un pas que beaucoup vont franchir. Pire, certains iront jusqu'à dire qu'elle a maudit l'acteur, sa voiture et tous ceux qui iront faire un tour dedans. Et vous n'y croyez pas, bien sûr. Alors écoutez ceci. Alors qu'il vient de finir le tournage de ses 3 films, James Dean reste proche des acteurs du premier, dont je vous ai raconté tout à l'heure l'une des scènes mythiques. Une partie du casting de La Fureur de Vivre ira donc se promener dans L.A. à ses côtés en Porsche. Tenez-vous bien. Natalie Wood, la jeune actrice principale du film, mourra à l'âge de 44 ans seulement. Bizarrement, noyée dans sa piscine avec 1,4 g d'alcool dans le sang alors qu'elle ne buvait pas. Le rival de Dean dans le film, qui l'accompagne aussi dans la voiture, sera assassiné chez lui à l'âge de 37 ans. Quant à Ursula Andress, heureusement pour elle, elle refusa de monter dans le bolide comme saisie par un pressentiment. Bizarre, vous avez dit ? Alors attendez la suite. Le 30 septembre 1955, James Dean se tue donc au volant de sa voiture. Il faut dire que les 4 cylindres à plat de 1,5 litre pour un poids plume de 640 kg étaient, selon le catalogue de vente, capables de monter jusqu'à 210 km par heure. Pure folie ! En tous les cas, Dean est mort. Sa barquette de course, elle, n'a pas terminé son parcours. L'épave est rachetée par un certain George Barris, dont nous avons déjà évoqué le nom et dont l'objectif est clair, se faire un maximum d'argent en la revendant en pièces détachées. Mais Little Bastard ne compte pas se laisser faire. Lors de son transport, Un dysfonctionnement dans le système de déchargement provoque la chute du véhicule qui écrase le chauffeur. Le moteur et la transmission seront ensuite vendus à un médecin et son ami, tous deux amateurs de course auto. Sitôt installés, les pièces provoquent un accident, tuant sur le coup l'un des deux hommes et blessant gravement l'autre. Les pneus, eux, furent remontés sur une autre voiture. Et là encore, rebelote, accident de l'acheteur qui dut passer plusieurs mois à l'hôpital. Vous souhaitez que je continue ? Ok. Georges Barris, qui a gardé pour lui le corps démantibulé de la voiture, autorise, contre monnaie sonnante et trébuchante, qu'elle soit utilisée dans le cadre d'expositions pour la prévention routière. L'entrepôt prend feu mystérieusement et seule la voiture de Dean survit aux flammes. Quelques semaines plus tard, on l'a dit, un adolescent est tué par le pot d'échappement qui se détache de l'ensemble sans raison apparente. Comble du bizarre, cet accident a lieu un 30 septembre, le jour anniversaire de la mort de son propriétaire. De nouveaux incidents se produisent lors de son transport pour des expositions à Salinas, puis à la Nouvelle-Orléans, sans tuer personne cette fois. La première fois, elle écrase tout de même le chauffeur en se détachant. La deuxième fois, c'est la voiture qui se désintègre en 11 morceaux distincts. Et la liste s'allonge encore et encore. La voiture a la réputation d'être une tueuse et plus personne ne veut prendre de risques avec. En 1960, Georges Barris se décide à contre-cœur à la vendre à la casse automobile la plus proche qui vient la chercher. Mais le rocambolesque ne semble pas avoir de limite. Le camion arrivant à sa destination finale, on se rend compte en ouvrant la porte que Little Bastard a tout bonnement disparu. Oui, vous avez bien entendu, elle a disparu. La voiture s'est volatilisée comme ça, comme un oiseau quittant le nid sans que personne ne le remarque. Sauf que cet oiseau-là, il pèse tout de même plus de 600 kilos. Les joints d'expédition, eux, sont intacts. Et le plus fort dans tout cela, c'est que tout le monde recherche l'épave depuis 60 ans et que personne ne l'a jamais retrouvée. Le Volvo Auto Museum, situé dans l'Illinois, est allé jusqu'à proposer la somme délirante $1 million pour obtenir des informations au sujet de la voiture. Wanted, dead or alive. À l'approche des 60 ans de la mort de l'acteur, un homme est venu se signaler, réclamant des garanties qu'il toucherait le pactole. Il avoua qu'il aurait aidé son père à emmurer la carcasse qu'ils auraient volée une fois le camion chargé. Où ça ? Dans un chantier d'immeubles d'un comté proche de Washington. Alors que la voiture devait aller à Miami. Toute cette histoire est au moins aussi bizarre que la série de meurtres déclenchés par la voiture tueuse. Et à ce jour, rien ne prouve que cet individu ait raconté la vérité. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec l'une des citations de cet acteur de génie qui était le jeune James Dean, parti comme une étoile filante. Fugace, magnifique. Lorsqu'on lui demande un jour ses impressions sur le métier d'acteur, il répond ainsi. Saisir la pleine signification de la vie est le devoir d'un acteur. L'interpréter est son défi. Voilà résumé en quelques mots seulement l'art véhiculé par cet écorché vif qui voulait vivre à 100 à l'heure. Dans un verset de l'Apocalypse, il est écrit que Dieu vomit les tièdes. Une épitaphe que James Dean aurait certainement pu voir inscrite sur sa tombe. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.